Chapitre 3. Quels sont les fondements de l'internationalisation du commerce et de la production? Grand 1. Les principales évolutions du commerce international. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le commerce international croît à un rythme supérieur à celui de la croissance mondiale. C'est pourquoi il est considéré par de nombreux économistes comme un facteur essentiel de l'enrichissement des nations. Les richesses échangées sont principalement des biens manufacturés, des matières premières et des services marchands. La Chine est devenue le premier pays exportateur au monde de marchandises. Les États-Unis restent le premier pays importateur de marchandises, mais aussi le premier pays exportateur de services. L'essentiel du commerce est un commerce à l'intérieur de grandes régions économiques, Europe, Amérique du Nord ou Asie. Il est qualifié de commerce intra-zone ou régional. Grand 2. Les déterminants des échanges internationaux. La théorie des avantages absolus d'Adam Smith ou celle des avantages comparatifs de David Ricardo montre qu'un pays a intérêt à se spécialiser en fonction de sa dotation factorielle. Si un pays possède beaucoup de capital et peu de facteurs travail, il réalisera une spécialisation dans la production de biens qui utilisent intensément le facteur capital pour pouvoir l'exporter. En échange, il importera des biens dont la production requiert une forte dotation en facteurs travail. Les nouvelles théories du commerce international montrent que la recherche d'économies d'échelle pousse les firmes multinationales, les FMN, à accroître leur production et leurs implantations à travers le monde. Par ailleurs, le commerce international répond aussi à une demande de différenciation des produits de la part des consommateurs qui recherchent des biens variés en termes de qualité issus de pays différents. Grand 3. Les vertus et les limites du libre-échange. La théorie des avantages comparatifs affirme que le commerce international est un jeu à somme positive. Tous les pays, quelle que soit leur dotation factorielle, gagnent à se spécialiser et à s'ouvrir au libre-échange. L'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, entré en vigueur en 1994, est un exemple qui atteste des avantages mutuels pour les États-Unis, le Mexique et le Canada à laisser circuler librement les marchandises. La croissance soutenue de la Corée du Sud, de Taïwan, de Singapour ou surtout de la Chine atteste du bien fondé du gain à l'échange. Néanmoins, dans les pays développés, le libre-échange peut aussi mener à des délocalisations préjudiciables à l'emploi industriel. Par ailleurs, certains pays en voie de développement peuvent pâtir d'une spécialisation trop poussée dans l'exportation d'une matière première au prix fluctuant, au détriment du développement d'activités économiques tournées vers la satisfaction des besoins des habitants. Grand 4. Les fondements et les risques des politiques protectionnistes. Le protectionnisme répond à une demande de protection de la part des producteurs nationaux face à la concurrence étrangère. Il peut prendre des formes classiques, comme les droits de douane ou les quotas d'importation, mais aussi des formes plus insidieuses comme les subventions publiques, la sous-évaluation de la monnaie ou encore l'invocation du principe de précaution pour protéger le consommateur. Néanmoins, le protectionnisme engendre une augmentation du prix des biens et services, particulièrement préjudiciable pour le consommateur. L'instauration de droits de douane augmente mécaniquement le prix de vente des biens importés, ce qui pénalise le pouvoir d'achat des consommateurs qui, au final, supportent le coût de ces mesures. Par ailleurs, la mise en place de mesures protectionnistes par un pays entraîne inévitablement des mesures de rétorsion d'autres pays, conduisant ainsi à une contraction globale du commerce mondial. La période d'entre-deux-guerres 1920-1939 a montré à quel point une telle politique pouvait être dangereuse. Grand 5. L'internationalisation de la production. La délocalisation de la production permet de réduire le coût de production, Mais les entreprises ont aussi de plus en plus tendance à accroître la décomposition internationale du processus de production, DIPP. L'exemple d'Apple montre que la conception est réalisée aux États-Unis, que les composants proviennent du Japon, de Taïwan ou de la Corée du Sud et que le tout est assemblé en Chine. Par ailleurs, la production est souvent externalisée vers une autre société dans le but de minimiser les coûts de fabrication et de se concentrer sur l'innovation ou le marketing. Avec l'internationalisation de la production, le volume du commerce des biens intermédiaires, composants et sous-parties d'un produit fini, a fortement augmenté au cours des dernières décennies. La notion même de pays d'origine, le Made in France par exemple, perd beaucoup de son sens, car la totalité de la valeur commerciale est attribuée au pays qui a opéré la dernière transformation, quelle que soit sa contribution relative dans la chaîne de valeur ajoutée. Grand 6. Les stratégies des firmes multinationales. Les firmes multinationales ont recours à de multiples stratégies pour diminuer le coût de production grâce à la délocalisation et à l'externalisation. Elles cherchent aussi à s'implanter dans les pays émergents pour accroître leurs ventes grâce au développement d'une classe moyenne qui cherche un épanouissement dans la consommation de biens et services nouveaux. Enfin, les FMN élaborent des stratégies complexes d'optimisation fiscale en multipliant le commerce intra-firme à l'intérieur de leurs différentes filiales, dans le but de baisser leurs bénéfices dans les pays où la fiscalité est forte et inversement de les augmenter dans les pays où celle-ci est plus avantageuse. Grand 7. La compétitivité au cœur de la mondialisation. La compétitivité d'un pays et de ses firmes est aujourd'hui centrale dans la compétition internationale. Dans un pays comme la France, où le coût du travail est élevé, la compétitivité prix est forcément fragile face à la concurrence des pays asiatiques, par exemple. D'où la nécessité de miser sur la compétitivité hors prix, en stimulant l'innovation, le système éducatif ou la qualité des infrastructures. Par ailleurs, on constate que les gouvernements cherchent à attirer des investisseurs étrangers pour aider les entreprises à se développer à l'international. Enfin, certains pays, comme la Chine ou le Japon, n'hésitent pas à faire baisser leur taux de change en sous-évaluant leurs devises pour accroître la compétitivité prix et stimuler leurs exportations.